RCF. RCF, l'entretien de la semaine.
À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler à Paris, la France et notamment Chamonix commémorent le centenaire des premiers Jeux Olympiques d'hiver. En effet, c'est à Chamonix que du 25 janvier au 5 février 1924 se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques d'hiver, réunissant 260 participants de 16 nationalités. Julien Sorez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du sport. Alors vous venez de publier aux éditions Glénat un beau livre avec de nombreuses photographies d'époque, un livre intitulé « Chamonix 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver ». Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2 ans, mai 1926, pour que cette semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix soit reconnue comme les premiers Jeux Olympiques d'hiver?
Eh bien, parce que cette semaine internationale est une forme de laboratoire de l'olympisme en hiver, puisque c'est donc à partir des années 20 que au CIO, la réflexion se fait sur la possibilité, l'opportunité de décupler les Jeux d'été en une version d'hiver. Et cette expérience, donc, elle est menée à Chamonix en 1924, et c'est suite au succès de cette première édition qui ne porte pas encore son nom, que le CIO va en 1925 décider de pérenniser cette expérience et donc de créer des Olympiades d'hiver et de consacrer Chamonix en 1926 comme la première édition. C'est une forme de consécration de cette expérience qui a finalement bien tourné, s'est révélée vertueuse et qui devient désormais donc le premier jalon de l'olympisme en hiver.
Alors on se transporte en 1924, quels étaient les pays qui ont participé à ces premiers Jeux Olympiques d'hiver?
Alors, ce sont évidemment les pays où il y a de l'enneigement, de la montagne, et puis aussi une société bourgeoise industrielle. Alors, ce sont donc l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, l'Europe du Nord aussi, notamment les pays scandinaves, l'Europe alpine, donc tous les pays qui sont
donc, Autriche,
concernés,
Suisse, Italie,
exactement, France, et puis quelques pays d'Europe centrale.
Donc c'était 16 pays en gros.
C'est ça, effectivement. En fait, il y a 17 nationalités. Il y a aussi l'Estonie, mais en fait, l'Estonie participe au défilé, mais ne participe pas aux épreuves. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a eu une défection entre la cérémonie d'ouverture, le défilé et les premières épreuves.
Alors, quand on voit les photos, il y a bien sûr des gens habillés en tenue de sport de l'époque, mais on voit beaucoup de militaires aussi. Il y avait une forte présence militaire.
Alors, il y a un certain nombre de disciplines qui sont assurées par les militaires, notamment le ski, puisque le ski a une forte dimension militaire, puisque c'est le ski nordique, hein, ce n'est pas le ski de descente, qui sera pratiqué aux Jeux Olympiques pour la première fois en 1936. Donc, il y a une tradition dans les pratiques, notamment de ski militaire, effectivement, puisque c'est une manière, dans certains pays, de se déplacer aux troupes, de se déplacer. Donc, il y a une tradition militaire assez forte.
Mmh. C'est intéressant de voir les photos et la taille des skis. Assez impressionnant, hein. Les skis d'aujourd'hui.
Exactement.
Quel a été le défi finalement relevé en créant ces premiers Jeux Olympiques d'hiver?
Alors, à l'échelle de la commune de Chamonix et de la France, c'est d'abord de créer des infrastructures qui permettent d'accueillir ces événements. Donc, il y a la construction de 3 équipements sportifs, une patinoire de 36 000 m² en plein air. Donc, c'est gigantesque, c'est un qu'on se rend pas compte aujourd'hui, mais il y a une maquette qui est au musée de la mémoire du patrimoine à Chamonix et qui représente un peu l'échelle de cette patinoire, mais vraiment gigantesque, 36 000 m², avec un vrai défi qui est de faire de la glace en plein air.
Mais pourquoi aussi grande?
Aussi grande parce qu'elle recoupe en fait énormément de pratiques. Il y a le hockey sur glace, il y a le patinage artistique, il y a le patinage, il y a l'anneau de vitesse. Il y a la piste de curling. Donc, en fait, il y a la plupart des épreuves qui se déroulent sur cet espace.
Et sur une patinoire. Alors.
Et sur une seule patinoire. Donc, il y a aussi un tremplin de saut à ski et puis une piste de bobsleigh. Et donc, ces 3 éléments représentent un véritable défi. D'abord, parce qu'il faut mobiliser l'argent pour pouvoir construire, ça a un coût. Il faut aussi être dans la livraison des jeux et à un moment donné, on se rend compte que l'entreprise qui a été désignée pour mener à bien ses travaux ne va pas assez vite. Donc, elle est mise en demeure. Il y a une autre entreprise qui prend le relais. Donc, il y a un peu de stress quand même, comme on peut les connaître, quand même, stress qu'on peut connaître dans les différentes autres Olympiades. Et puis, il y a aussi la question de l'adhésion de la population qui va jouer un rôle important puisque à certains moments, alors par exemple pour le déplacement des visiteurs, les chamoniards vont utiliser des traîneaux, vont mettre à disposition des traîneaux pour que la population et les sportifs puissent se déplacer, ou encore pour déneiger la patinoire puisque quelques jours avant la première épreuve, il y a une chute de neige, un mètre de neige sur la patinoire et il faut trouver de bonnes âmes qui puissent avec des pelles déneiger cette patinoire qui doit être de glace et non de neige.
Ce n'est pas les hivers que nous avons en ce moment. Julien Sorez, pourquoi Chamonix? Et alors, pas une autre station, je pense à Montgenèvre par exemple, qui a eu les premiers concours olympiques de pas les concours olympiques, les premiers concours de ski. Pourquoi Chamonix?
Alors Chamonix, parce que d'abord, elle a les infrastructures non pas sportives mais hôtelières, qui lui permet d'accueillir le nombre quand même conséquent de spectateurs, d'officiels et d'athlètes qui doivent se rendre sur le site des Jeux. Donc ça, c'est le premier point. Et Chamonix étant une station d'alpinisme réputée, elle a déjà de très grands hôtels qui permettent d'accueillir cette population pour les Jeux. Il y a aussi une bonne liaison ferroviaire avec Paris, avec les grandes métropoles en France, Lyon notamment aussi. Et puis surtout, il y a un conseil municipal qui est tenu à partir de 1919 par des hôteliers qui ont tout intérêt à investir dans les sports d'hiver. Et les Jeux Olympiques sont la fenêtre d'opportunité qui va leur permettre de développer cette pratique durant l'hiver et de concurrencer notamment les grandes stations d'hiver suisses.
RCF, l'entretien de la semaine.
Alors Julien Sorez, vous avez commencé un peu à le faire il y a un instant, mais j'aimerais qu'on parle des épreuves. Il y avait 16 épreuves pour ces premiers Jeux Olympiques de 1924, premiers Jeux Olympiques d'hiver. Pouvez-vous nous parler de ces épreuves?
Oui, alors il y a des épreuves de ski principalement, alors ski nordique plutôt, avec différentes longueurs de parcours. Il y a aussi le patinage, patinage de vitesse ou patinage artistique, et c'est là que l'on retrouve les 13 fameuses patineuses, hein, qui sont les seules sportives de cette édition.
Il y a aussi... C'est les seules femmes.
Voilà, c'est ça. C'est les seules femmes.
C'est les patineuses.
Parce que le patinage artistique correspond à ce qu'on attend des femmes dans le domaine du sport, dans l'entre-deux-guerres, hein, à savoir de la grâce, de l'élégance, mais surtout pas de la vitesse, de la force ou de l'endurance. Donc, il y a cette présence féminine dans le patinage. Il y a aussi le curling, le bobsleigh, le hockey sur glace, donc des sports de glace qui composent en fait cette première édition des Jeux.
Le ski, on sent qu'il est dominé par les Scandinaves. Pourquoi ça? Et quand on dit Scandinave, c'est surtout Norvégiens et Suédois.
Ouais, et Finlandais aussi. Alors, parce que il y a une tradition très ancienne, hein, c'est sans doute là que le ski nordique qu'on peut appeler ski de fond aussi a été inventé. C'est un mode de déplacement, notamment dans le monde rural, extrêmement ancien. Et donc, il y a de très nombreux pratiquants. Et ces pays-là fournissent de nombreux athlètes qui d'ailleurs remportent de nombreuses médailles.
Il y a notamment alors le roi du ski.
Oui, Thorleif Haug, ouais. Donc qui est un Norvégien qui est près d'Oslo. Il a 29 ans quand ces Jeux débutent et il remporte 3 médailles d'or. Alors la médaille, 2 médailles, celle du 18 km, du 50 km et celle du combiné, puisqu'il y a une épreuve qui en fait est la somme des performances de deux épreuves, le 18 km et le saut à ski. Et c'est Thorleif Haug en fait qui a le meilleur score cumulé, donc il a une troisième médaille d'or.
Et alors les Français, qu'est-ce qu'ils font? Alors les Français, ces premiers Jeux Olympiques d'hiver,
ils font pas grand-chose. Hein. Certaines mauvaises langues disent que c'est la seule nation ayant organisé des Jeux d'hiver sans avoir eu de médaille d'or, ce qui est vrai. Il y a une médaille d'argent en curling, mais en même temps, il y avait que 3 nations participantes, donc cette médaille, elle n'est pas non plus très très méritante. Mais on a, en tout cas, des athlètes, parce qu'une des préoccupations, c'était aussi d'arriver à avoir des athlètes qui puissent être présents dans quasiment toutes les épreuves. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les sports d'hiver sont quand même très peu développés. Et il y a des chamoniards. Et finalement, c'est un peu les gens du cru qui vont représenter la France du fait de l'absence de diffusion sociale de ces pratiques qui restent réservées soit à une petite élite, soit à des gens du cru.
Vous parliez d'élite. Quand on regarde la photo que vous mettez dans ce livre, Chamonix 1924, sur des pratiquants du curling, Là, on voit qu'on a affaire à des Écossais élégamment vêtus de cravates, de costumes et de bérets.
Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine connotation des sports d'hiver à cette époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui plutôt s'adresse aux classes aisées. On le voit à travers effectivement le curling, on le voit aussi à travers le patinage, puisque le patinage est une pratique qui naît dans les grandes villes européennes et qui est plutôt pratiquée par la bourgeoisie et l'aristocratie sur les lacs gelés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On le voit aussi avec le bobsleigh, qui est un peu la chevalerie moderne des sports d'hiver, un petit peu comme l'automobile, hein, les bobs. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photos, mais il y a des volants, il y a des freins, et donc il y a une dimension aristocratique, le culte de la vitesse, se confronter au danger. Mais en même temps, les vainqueurs de l'épreuve de bobsleigh, et c'est là toute la nuance intéressante de l'histoire du sport, est remportée par une troupe de finalement de postiers, de bûcherons, de facteurs suisses qui ont gagné leur bobsleigh l'année précédente dans une tombola d'un club de gymnastique qui s'inscrivent pour concourir et qui remportent la médaille d'or de la descente.
Excellent,
de
l'eau. Excellent. Et les reines du patinage artistique qui sont
alors, il y en a une, celle qui est la plus capée à cette époque-là, c'est Herma Zaboplank, qui est une Autrichienne, qui est double championne de patinage artistique et qui remporte la médaille d'or. Et puis, il y a Sonia Aigné, qui est une jeune fille de 11 ans, qui impressionne évidemment tous les observateurs, mais qui ne va rien remporter. Son sacre viendra 4 ans plus tard.
En un mot, qu'est-ce qui a changé pour la ville de Chamonix que d'organiser ces Jeux Olympiques d'hiver?
Alors, ce qui a changé d'abord, c'est que le tourisme s'est étalé non seulement sur l'été, mais surtout sur l'hiver à partir de ces Jeux, puisque les infrastructures vont lancer véritablement le tourisme hivernal à Chamonix. Le deuxième élément, c'est que cette ville, finalement, va prouver sa capacité à organiser des grands événements sportifs. Il va y avoir très vite des épreuves, des compétitions de ski de descente. Il y a aujourd'hui l'UTMB, donc c'est une ville qui est tournée vers l'événementiel sportif. Et enfin, elle rentre dans le cercle fermé des villes olympique, puisque depuis 1924, elle fait partie de celles qui ont eu le privilège d'organiser des Olympiades en hiver.
Merci beaucoup, Julien Sorès. Je renvoie vraiment à votre livre Chamonix 1924 que vous publiez chez Glénat. Alors, je recommande bien sûr vos textes, mais aussi l'iconographie fabuleuse de cette époque.
Merci.